dans l'évangile de Jean, au chapitre 1er, au verset 6. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez soi, et les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 19. Et c'est ici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu ? » Et il confessa et ne nia pas et confessa « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent « Quoi donc ? Es-tu Élie ? » Et il dit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent donc « Qui es-tu ? » afin que nous donnions réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même ? » Il dit, « Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Faites droit le chemin du Seigneur, comme dit Ésaïe le prophète. » Et ils avaient été envoyés d'entre les pharisiens. Et ils l'interrogèrent et lui dirent, « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ? » Jean leur répondit, disant, « Moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y en a un que vous ne connaissez pas. » Celui qui vient après moi, duquel moi je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. Ces choses arrivèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il voit Jésus venant à lui et il dit, « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » C'est de celui-ci que moi je disais, « Après moi vient un homme qui prend place avant moi, car il était avant moi. » Et pour moi, je ne le connaissais pas. Mais afin qu'il fût manifesté à Israël, à cause de cela, je suis venu baptiser d'eau. Et Jean rendit témoignage, disant, « J'ai vu l'Esprit descendant du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et pour moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là me dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint. Et moi, j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. » Le lendemain encore, Jean se tint là et deux de ses disciples. Et regardant Jésus qui marchait, il dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Et les deux disciples l'entendirent parler, et ils suivirent Jésus. Nous lirons dans le chapitre 3 du même évangile, évangile de Jean, chapitre 3, verset 22. Après ces choses, Jésus vint dans le pays de Judée, et ses disciples avec lui. Et il séjourna là avec eux et baptisait. Et Jean aussi baptisait en Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on venait et on était baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Il y eut donc une discussion entre quelques-uns des disciples de Jean et un juif, touchant la purification. Et ils vinrent à Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain, à qui tu as toi-même rendu témoignage, voilà, il baptise, et tous viennent à lui. » Jean répondit et dit, « Un homme ne peut rien recevoir, à moins qu'il ne lui soit donné du ciel. Vous-même, vous me rendez témoignage que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais je suis envoyé devant lui. Celui qui a l'épouse et l'époux, mais l'ami de l'époux qui assiste et l'entend, est tout réjoui à cause de la voix de l'époux. Cette joie donc qui est la mienne est accomplie. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous et de ce qu'il a vu et entendu, de cela il rend témoignage. Et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a scellé que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé parle les paroles de Dieu, car Dieu ne donne pas l'Esprit par mesure. Nous lirons maintenant dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 2. Et Jean, ayant ouï parler dans la prison des œuvres du Christ, envoya par ses disciples et lui dit : Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ? Et Jésus répondant leur dit : Allez, et rapportez à Jean les choses que vous entendez et que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, et les boiteux marchent. Les lépreux sont rendus nets, et les sourds entendent. Et les morts sont ressuscités. Et l'Évangile est annoncé aux pauvres. Et bienheureux est quiconque n'aura pas été scandalisé en moi. Et comme il s'en allait, Jésus se mit à dire de Jean aux foules : Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu de vêtements précieux ? Voici, ceux qui portent des choses précieuses sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est ici celui dont il est écrit : Voici moi, j'envoie mon messager devant ta face, lequel préparera ton chemin devant toi. En vérité, je vous dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Jean le baptiseur. Mais le moindre, dans le royaume des cieux, est plus grand que lui. Et encore un passage, toujours dans le même évangile, au chapitre 14, évangile de Matthieu, chapitre 14, verset 3. Matthieu, chapitre 14, verset 3. Hérode, ayant fait prendre Jean, l'avait fait lier et mettre en prison. Et verset 10, et il envoya Hérode décapiter Jean dans la prison. Ce matin, nous avons vu le début du ministère de Jean-Baptiste. Nous avons vu les circonstances de sa naissance, l'état du peuple, l'état de cœur du résidu. Nous avons vu l'annonce qui avait été faite à son père Zacharie pour ce sujet de joie pour lui, l'annonce de la naissance d'un fils qui serait nazaréen dès le ventre de sa mère, c'est-à-dire séparé pour Dieu. Nous avons vu son ministère comme prophète. Maintenant, cet après-midi, avec la grâce de Dieu et le secours de l'Esprit, nous considérerons la seconde partie du ministère de Jean, c'est-à-dire l'homme et le témoin. Ensuite, ainsi que nous l'avons lu, nous verrons sa défaillance et enfin sa mort.
Il paraissait paisible au début de l'évangile de Luc, au moment où la naissance de Jean va être annoncée. Chacun vaquait à ses occupations propres. Le sacrificateur accomplissait son service. On voit plusieurs femmes dans leur foyer. Les pharisiens continuaient leur vie normale, contents d'eux. Et voilà que celui qui est envoyé, annoncé, envoyé, devra dire à tous ceux qui étaient satisfaits d'eux-mêmes : race de vipères, fuyez la colère qui vient. On nous rappelait à midi que peut-être nous n'avons pas suffisamment insisté sur ce fait. On se croit tranquille. On se dit heureux. Et quand on voit un grand groupe comme celui qui est rassemblé là dans cet après-midi, on peut se dire, constituant l'assemblée de Dieu, les assemblées locales, grâce à Dieu, tout va bien. Et ce serait peut-être méconnaître tant et tant de problèmes attristants, profonds, cachés. secret. L'essentiel est de savoir dans quelle situation on se trouve. Quelques-uns étaient là, craignant Dieu, parlant de lui l'un à l'autre et attendant. D'autres, au contraire, menant une vie, même religieuse, de bonne apparence, se donnaient bonne conscience. Et le prophète venu devra les reprendre vertement. D'autres étaient là avec toute leur misère, ayant la conscience, ayant l'impression que leur conscience leur parlait. Et ils sont heureux de trouver ce moment et cette occasion d'aller interroger au bord du Jourdain Jean le prophète. Que faut-il que nous fassions? Que faut-il que nous fassions? Et c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de s'interroger. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous dans notre vie chrétienne? Et déjà, nous tous qui sommes là, sommes-nous bien assurés de notre propre salut? Avons-nous tous bien la vie éternelle? Avons-nous eu cette rencontre personnelle avec Dieu qui peut faire dire maintenant, je sais que mon salut est assuré? Vous vous souvenez l'histoire du jeune Samuel qui était dans le temple, conduit par sa mère, accompagné des prières de sa mère et qui était là, dans le temple? Il lui manquait une chose. Il était dans le lieu qui convenait, il avait les prières de sa mère qui étaient assurées, mais il pensait encore qu'il avait besoin pour avoir des contacts avec Dieu d'un intermédiaire. Et quand au milieu de la nuit la voix se fait entendre, il court tout naturellement vers Élie. Est-ce que nous ne risquerions pas, jeunes gens, jeunes filles qui êtes là, quand il y a des problèmes qui se posent, d'avoir tendance à se reposer sur tel ou tel auquel on peut aller, auquel on peut demander, poser des questions? Samuel devra apprendre ceci, qu'il a besoin d'une rencontre personnelle avec Dieu. Et là, au milieu de la nuit, il entend une voix, et quelqu'un qui ne croit pas, c'est Dieu qui lui parle. C'est déjà un point essentiel, c'est le seul départ vrai d'une vie chrétienne, un contact personnel avec Dieu. Ce matin donc, c'était Jean le prophète. En plus du prophète, nous avons vu donc quel était son message. Essentiellement, le royaume des cieux s'est approché, il s'est approché dans une personne qui est là, prête à établir son règne. Mais il y a un tel désordre qu'il doit avoir son vent dans sa main, qu'il va rassembler le bon grain et qu'il va jeter la balle au feu inextinguible. Il y a tellement de désordre qu'il faudra qu'il mette de l'ordre avant de pouvoir régner. Il y avait en plus, on ne l'a pas beaucoup vu ce matin, l'homme de Dieu, cet homme de Dieu qui vit à l'écart, dans le désert, à l'écart. Avec Dieu seul. Il est vêtu comme était vêtu autrefois le prophète Élisée, que nous trouvons au début du second livre des Rois. Il avait donc un vêtement de poils de chameau, une ceinture, il se nourrissait simplement de miel sauvage et de sauterelles. Il était un peu comme Élie au Kérite, dépendant entièrement de Dieu. Les corbeaux apportaient à Élie, Dieu apportait à Jean les sauterelles nécessaires, le miel sauvage. Toujours plus humble à ses yeux, toujours plus modeste, vivant avec Dieu et vivant pour Dieu. Et devant les foules, devant le peuple, alors, un homme puissant dans son message, le prophète. Cet après-midi, dans l'évangile de Jean, nous avons un aspect tout nouveau de la mission de Jean le baptiseur. Ce n'est plus le prophète se plaçant devant le peuple et délivrant son message de la part de Dieu. C'est celui qui est le témoin c'est-à-dire celui qui se tient devant son Seigneur, qui le regarde, qui l'écoute et qui dit à autrui, c'est le propre d'un témoin, transmettre à d'autres ce que l'on a entendu et ce que l'on a vu, il transmet donc à d'autres ce qu'il a reçu de celui devant lequel il se tient. Et nous avons dans ces premiers chapitres de l'évangile de Jean, chapitre 1 et chapitre 3 en particulier, la lecture qui nous a été faite, une succession de témoignages de Jean. Il y a un terme qui est propre à cet évangile de Jean, il rendit témoignage. C'est quelqu'un qui a entendu, c'est quelqu'un qui a vu, c'est quelqu'un qui a reçu un message et qui le transmet. Nous allons avoir donc, dans cet après-midi, cette succession de témoignages. Très rapidement, j'en signale quelques-uns, pas tous. Il rend d'abord témoignage de la lumière. N'oublions pas que déjà, le père de Jean, Zacharie, avait dit, nous l'avons vu dans l'évangile de Luc, on pourrait relire peut-être pour faire la relation avec ce que nous avons là, à la fin du premier chapitre de l'évangile de Luc, dans les tout derniers versets, nous lisons ceci, c'est le message de Zacharie, le verset 78, « Alors les entrailles de miséricorde de notre Dieu, selon lesquelles l'Orient d'en haut nous a visités, afin de luire à ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour conduire nos pieds dans le chemin de la paix. » Voilà où ils étaient, ces fidèles, ceux qui attendaient, ceux qui parlaient l'un à l'autre, dans l'ombre de la mort. Et là, l'Orient d'en haut nous visite. L'Orient d'en haut, c'est donc une lumière qui apparaît comme venant du ciel. Quand Jean, dans cet évangile de Jean, délivre son message, lui parle déjà de la lumière qui vient dans le monde. Le jour s'élevait déjà. Du temps a passé, et au milieu de ces ténèbres morales qui envahissaient le monde tout entier, la lumière vient. La lumière vient signifie deux choses pour Jean le Baptiseur. Quand la pleine lumière sera là, et la pleine lumière c'est celui qui l'annonce, Christ lui-même, la lampe que lui-même a allumée dans la nuit n'aura plus qu'à s'éteindre. Vous vous êtes réjouis à sa lumière, dira le Seigneur. Lui a été la lampe ardente et brillante. On lit ça quelques chapitres plus loin dans cet évangile de Jean. Lui a été la lampe ardente et brillante. On peut le lire au chapitre 5. Vous avez, verset 33, vous avez été envoyé auprès de Jean. Il a rendu témoignage à la vérité. Mais moi, je ne reçois pas témoignage de l'homme. Mais je dis ces choses afin que vous soyez sauvés. Celui-là était la lampe ardente et brillante. Et vous avez voulu vous réjouir pour un temps à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage, etc. Jean avait fait briller sa lampe. Il l'avait fait briller autant qu'il avait pu. Pour que l'on se réveille. Pour réveiller des consciences. Réveiller des endormis. Réveiller des gens qui étaient dans leur apathie, qui se disaient « tout va bien », alors que tout allait mal. Et maintenant qu'ils sont réveillés, il leur dit « la vraie lumière vient ». Et la lampe a été tellement brillante que la mèche s'en est consumée bien vite. Mais la lumière est là. Premier témoignage de la lumière. Second témoignage, on le trouve donc au verset 15, Jean rend témoignage disant qu'il était avant lui. Bien sûr, lui, Jean, est venu, puis vient le Seigneur qui était avant lui, et que lui, donc, prend place avant lui. Troisième témoignage, c'est au verset 19, le témoignage de Jean quand ils l'envoyèrent. Alors, es-tu Élie, es-tu le Christ? Lui dit-on, et lui va dire qu'il n'est ni l'un ni l'autre, ni le Christ, ni Élie qui doit venir, mais qu'est-ce que tu es toi? Mais moi, je ne suis rien. Je suis comme ce qui est immatériel. Je suis une voix. Qu'est-ce que c'est qu'une voix? Une voix, c'est imperceptible par le regard. Une voix, c'est quelque chose qui fait que toute l'attention est concentrée sur ce qu'elle dit, sur son message. Et voilà Jean qui s'efface totalement pour que le message qu'il doit délivrer puisse être entièrement délivré. Moi, une fois, lui, c'est lui seul qui compte. Et puis viendra alors, il ne connaissait pas encore Jésus, qu'il n'avait pas vu. Voici un quatrième message, donc au verset 29. Le lendemain, il voit Jésus et dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a une surprise, il y a comme un choc pour Jean, si l'on peut dire, quand il voit Jésus venant à lui. Il l'avait déjà annoncé aux foules comme étant celui qui viendrait et qui allait balayer son air avec puissance, avec autorité. Et voilà qu'il voit venant à lui celui qu'il n'attendait pas, qu'il ne connaissait pas, dira-t-il. Et l'Esprit le pousse à l'annoncer sous le vrai titre que Jean doit présenter sans le comprendre, et nous le verrons plus loin. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu. Combien cela était loin des pensées mêmes de Jean. L'agneau, c'était ce qui avait accompagné les sacrifices depuis des siècles et des siècles. L'agneau de Dieu. Dieu avait demandé des agneaux. Dieu en envoie. Ne serait-il pas l'agneau d'Ésaïe 53 ? Déjà, Jean aura beaucoup de mal à comprendre l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puis, succession de messages, alors, de témoignages, celui du verset 32, il voit donc l'Esprit qui descend sur lui. Quelqu'un lui avait dit, il avait été averti par l'Esprit, celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre, c'est lui. Et effectivement, nous sommes au baptême de Jean, celui qui s'est approché là, il lui dit, il est bon que nous accomplissions toute justice, il se soumet au baptême de Jean. Et soudain, pendant qu'il était en prière, nous précise l'évangile de Luc, le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. Le ciel s'ouvre, la voix de Dieu se fait entendre, on en a parlé ce matin. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. C'est lui, c'est lui, c'est bien celui sur lequel l'Esprit est descendu. Et alors, ce témoignage, sixième témoignage qui vient après, et moi, je rends témoignage, j'ai vu, verset 34, et j'ai rendu témoignage que celui-ci est fils de Dieu. Il rend témoignage que c'est bien sur lui que l'Esprit est descendu, il avait été conçu de l'Esprit, il est maintenant loin de l'Esprit, et il rend ce nouveau témoignage de lui, fils de Dieu, qui montre tout à la fois que il est, lui, de même nature que Dieu, il est Dieu lui-même, fils de Dieu. Et ensuite, il rend témoignage de Jésus dans sa marche, il voit Jésus marchant. Et il le présente à ses disciples, et deux de ses disciples vont quitter le précurseur qui ne les en empêchera pas, et ils vont aller à Jésus qui va les accueillir. Viendra alors un autre témoignage que nous avons lu au chapitre 4, mais nous y reviendrons plus tard.
Le témoignage rendu par Jean tel qu'il vient de nous être présenté, tel qu'il l'est dans ce premier chapitre, est en effet très remarquable, il est multiple. Mais ce n'est pas un témoignage à des vérités, à une doctrine, à un ensemble de vérités qu'il s'agit de communiquer. C'est un témoignage à quelqu'un. C'est la présentation d'une personne. Il s'agisse de Jésus présenté comme étant la vraie lumière, qu'il s'agit de lui comme le Fils unique de la part du Père, tel que la grâce et la vérité qui viennent par Jésus-Christ, comme nous l'avons dans le verset 15 et 16, qu'il s'agisse de l'agneau de Dieu, qu'il s'agisse du Fils de Dieu, comme nous l'avons vu au verset 34, c'est toujours la personne. Et pour nous aussi. Notre témoignage est à quelqu'un. Celui qui sauve est plus que le salut. Nous présentons aux hommes simplement le fait qu'ils sont pécheurs, qu'ils ont besoin du salut. C'est déjà quelque chose, mais présenter celui qui sauve, présenter la personne. Et c'est cela que Jean nous enseigne. Et présenter Jésus sous divers côtés. Cette révélation est extraordinaire. Pensez que déjà il peut parler de celui qui est le Fils unique de la part du Père, celui qui vient après moi, prend place avant moi, il était avant moi. Celui qui est le Fils de Dieu, celui qui est l'agneau de Dieu, que de choses il a à dire. Nous aurions beaucoup à dire au sujet du Seigneur. Quelquefois, nous limitons notre témoignage, nous limitons l'Évangile à peu de choses, à Jésus Sauveur. Mais la personne sous ses différentes gloires, c'est un côté du témoignage. L'autre côté, c'est que Jean est ce qu'il dit. Il est conforme, il est la voix. On vient de nous le rappeler, la parole insiste sur ce fait. C'est Jean lui-même qui dit, voilà, je ne suis pas Élie, je ne suis pas le Christ, je suis la voix. La voix, mais la personne confirme ce qu'il dit. Et c'est aussi un côté important. Nous l'avons vu ce matin, n'est-ce pas? Et c'est un homme séparé qui parle de séparation. C'est un homme humble qui parle de la place qu'il faut prendre devant Dieu. C'est un homme conforme à ce qu'il dit. C'est ce que le monde attend des chrétiens, c'est qu'ils soient conformes à ce qu'ils disent. C'est peut-être pour cela que notre témoignage personnel, notre témoignage de chrétien a si peu d'impact, si peu d'écho. C'est que le monde s'attend à voir des chrétiens conséquents et que nous le sommes si peu.
Ce septuple témoignage rendu par Jean le baptiseur est d'une grande beauté. Ayant, comme on vient de l'entendre, la personne même de Christ pour objet. En création, nous savons que dès le début, la lumière nous est présentée au premier jour. Mais au quatrième jour, ce qui nous est présenté, c'est l'astre. N'avons-nous pas, comme dans le cours des économies, la lumière, une révélation de ce qu'est Dieu, qui est lumière? Mais Jean vient nous présenter la source. L'astre est là. Nous sommes à la fin du quatrième millénaire de l'histoire de la responsabilité de l'homme. Jean donc, comme on l'a déjà entendu, bien qu'étant une lampe brillante et ardente, se manifestant dans une scène moralement et spirituellement ténébreuse, n'est pas lui la lumière. Dans le second témoignage qui nous a été présenté, Jean nous parle du Seigneur quant à sa grandeur et quant à son éternité. La plénitude de toutes choses en celui en qui Dieu était, selon l'expression de l'Épître aux Corinthiens. Cette plénitude, car en effet nous avons en Christ Dieu dans toute sa plénitude, sans aucune restriction, aussi bien en lumière, en amour, en grâce, en sainteté, en justice qu'en gloire. C'est une telle personne que ce prophète et homme de Dieu place devant nous. Celui qui est de toute éternité, il était avant moi. Dans ce troisième témoignage du verset 19e, c'est la supériorité. La supériorité de celui duquel il est le précurseur, et devant qui le messager s'efface entièrement. Il nous a parlé d'Élie, on lui demande s'il est Élie. Nous avons vu ce matin l'évocation de cette annonce du messager dans le prophète Malachie. C'est en effet le messager, Jean le baptiseur, du chapitre 3 de Malachie qui est annoncé. Et si le Messie eût été reçu, Jean le baptiseur aurait été l'Élie annoncé. Mais n'ayant pas été reçu, ni le précurseur, ni celui qui est annoncé et duquel il prépare le chemin, c'est alors un autre Élie qui viendra dans un temps futur encore et qui annoncera les jugements. Je remarque que les caractères qui nous sont donnés en Malachie 4, verset 5, se retrouveront en ceux des deux témoins d'Apocalypse 11. On l'a dit, en effet, il est la voie. Devant la grandeur, la supériorité de la personne qu'il présente, la personnalité du messager disparaît complètement. Il n'en est que la voix. La voix qui retentit et qui se fait entendre dans une scène qui ne porte aucun fruit, la stérilité d'un désert, et qui s'adresse à un peuple dont l'oreille est sourde et qui n'a jusqu'ici pas été attentif aux appels réitérés du Dieu qui lui parlait. Une voix qui se fait entendre dans le désert. Il est frappant de constater qu'au cœur de ce septuple témoignage, celui qui fait l'objet du verset 29e est là pour nous présenter Christ en rapport avec son œuvre. L'œuvre de Christ, l'œuvre de la rédemption, ne constitue-t-elle pas le fil conducteur des Écritures, la première pensée de Dieu, la pensée essentielle et vers laquelle converge tout le propos divin et de laquelle découle leur accomplissement et toutes les bénédictions qui parviennent à l'homme. Au cœur de ce septuple témoignage, Christ nous est présenté comme la victime accomplissant l'œuvre. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous évoquons souvent avec raison et avec reconnaissance l'œuvre de la rédemption en rapport avec le pardon de nos péchés comme croyants. Mais Jean nous le présente ici comme allant régler la question du péché. Il s'est chargé en effet du péché et l'a réglé d'une manière divine, glorieuse, parfaite et éternelle devant les yeux de Dieu. Il a fait par un seul sacrifice, par lui-même, l'abolition du péché devant les yeux de Dieu. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean le baptiseur nous présente ce prophète, cet homme de Dieu, nous présente le Seigneur en rapport avec le résultat final de son œuvre, qui ôte le péché du monde. Est-il ôté aujourd'hui? La question du péché est réglée. Il n'y a rien à ajouter à l'œuvre de Christ pour que tous les effets acquis par son œuvre soient produits en leur temps. Mais le péché sera ôté du monde dans un temps qui est encore futur, puisque tant qu'il y a le péché, il y a la mort et tout le train de misère qu'il entraîne. Mais lorsque la mort sera enlevée, lorsque le jugement final sera exécuté, le péché sera ôté. Il y a deux moyens par lesquels le péché peut être anéanti. Le premier, c'est l'œuvre de Christ. Placé devant la responsabilité et les yeux du cœur de la créature. Le second, c'est le jugement. Et pour l'âme qui décline l'œuvre de la rédemption, l'œuvre accomplie par l'agneau de Dieu connaîtra alors le jugement. C'est un tel message qui se rattache à ce quatrième témoignage central rendu par Jean le Baptiseur. Dans le cinquième déjà évoqué au verset 32e, il s'agit du baptême du Seigneur. Une scène unique, combien éloquente et touchante, au cours de laquelle nous voyons à l'entrée même du Seigneur dans son ministère public la rencontre des trois personnes de la Trinité. Dieu le Père se fait entendre, le Fils est présent, le Saint-Esprit descend. Les trois personnes sont là. Le Seigneur, comme on l'a vu ce matin, se range du côté de ceux qui se repentent. Car quel est le niveau, quel est le moment, quel est l'endroit, quelle est la condition dans laquelle le Seigneur rencontre sa créature? C'est au niveau de la repentance, point de départ de son ministère. C'est là que l'âme pécheresse, ce qui est le partage de tout homme selon la nature, rencontre son Sauveur. C'est au niveau de la repentance. Mais Dieu ne veut pas que son Fils soit confondu avec ceux qui ont des motifs de reconnaître leur faute, ceux qui ont des motifs de se repentir. C'est alors que la voix de Dieu se fait entendre pour déclarer qu'au sein de cette foule, il y a un homme que l'on ne connaît pas, comme il nous a dit. Il y en a un seul en qui Dieu trouve son plaisir. Il ne saurait être confondu. Celui-ci et mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Les cieux sont ouverts pour lui. Il nous a dit en Matthieu, les cieux lui furent ouverts. La voix de Dieu lui est adressée. L'appréciation divine se fait connaître. C'est donc en rapport avec ce baptême que nous avons ce cinquième témoignage rendu à l'égard du Seigneur. Dans le sixième témoignage, nous avons lu « Celui-ci vous baptisera de l'Esprit Saint. Moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. » Un témoignage rendu à Christ comme personne divine, une confirmation dans l'humanité de son titre d'héritier et de son titre de Fils de Dieu. À l'ouverture de l'Épître aux Hébreux, nous lisons les déclarations mêmes de Dieu à l'égard de son Fils. « Aujourd'hui, je t'ai engendré. » Bien sûr que le Seigneur n'a pas été Fils dès le moment où il était homme sur la terre. Il est le Fils bien-aimé de toute éternité. Mais ce titre est confirmé. C'est sa filiation dans le temps en rapport avec son humanité. La personne présentée par Jean le Baptiseur n'est rien moins que le Fils de Dieu. Et le septième témoignage qui est évoqué à partir du verset 35, en rapport avec le Seigneur, qui, comme victime, agneau, demeure le modèle à suivre, l'agneau de Dieu. Non seulement en rapport avec son œuvre, mais en rapport avec celui qu'il convient de suivre. Nous avons ici la seule école de théologie que l'Écriture reconnaisse. Jean le présente, le voyant marcher et disant « Voilà l'agneau de Dieu ». Que font les deux disciples? Ils l'entendent parler. Ils le voient marcher, ils l'entendent parler. Et ils le suivent. Fixez les yeux sur l'agneau de Dieu, le divin modèle, celui qui a marché comme personne d'autre ici-bas, qui trace le sentier que nous avons à emprunter à sa suite. Écoutez le Seigneur, ils l'entendirent parler. Dans la seconde manifestation de Dieu à l'égard de son Fils à la Transfiguration, que dira-t-il ? Répétant les mêmes paroles que nous avons ici, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir », Dieu ajoutera « Écoutez-le ». Vous n'avez pas écouté la loi, vous n'avez pas écouté les prophètes, il vous reste une seule ressource, Écoutez mon fils. Ils l'entendirent parler, ils le suivirent. Suivre celui sur lequel le regard de la foi et le regard des cœurs se portent. Suivant ce chemin, où arrivons-nous? Où il habitait? Le lieu de la présence divine, où le Seigneur habite. C'est bien là que sa grâce conduit les pas de ceux qui regardent le Seigneur, qui le contemplent, qui l'écoutent et qui marchent à sa suite. Ils seront avec lui. Déjà présentement, nous avons le privilège, le suivant, de nous trouver dans le lieu où il a établi la mémoire de son nom et où nous goûtons sa présence. Et la foi, suivant ce divin modèle, entrera, franchissant le seuil de la maison du Père, pour être à toujours avec le Seigneur. Et l'Esprit d'ajouter, c'était environ la 10e heure. L'œuvre expiatoire était accomplie entre la 6e et la 9e heure, heure pendant lesquelles le Seigneur, le divin agneau de Dieu, ôte, règle la question du péché. Ceci étant fait, l'écoutant et le suivant, nous arrivons, après son œuvre, environ à la 10e heure, là où il se trouve.
Ce qui montre la pureté et le prix, on pourrait dire, de ce témoignage que Jean rend, c'est que les conséquences, nous venons de l'entendre, c'est que ces deux disciples qui étaient avec lui, quand ils ont entendu Jean, eh bien, ils ont suivi Jésus. Et cela doit parler, je pense, à nos cœurs. Tout témoignage qui est rendu au Seigneur a du prix dans la mesure où les âmes sont attachées à Christ. En quelque sorte, ceux qui ont entendu peuvent dire comme ses disciples, autrefois sur le chemin d'Emmaüs, notre cœur ne brûlait-il pas quand il nous parlait dans le chemin? Je pensais à ce verset aussi que l'apôtre Paul, dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 4, où Paul va dire, verset 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons le Christ Jésus comme Seigneur, et nous-mêmes comme vos esclaves pour l'amour de Jésus. » Expression qu'on retrouve d'ailleurs plus bas, où il parle encore de cet amour de Jésus qui était dans son cœur, verset 11, et on voit que porter toujours, partout dans le corps, verset 10, la mort de Jésus, afin que la vie même de Jésus soit manifestée dans notre corps, dit-il. Voilà, on pourrait dire, un serviteur qui marche vraiment sur les traces du Seigneur, et qui l'aime, et qui le sert comme il convient. Et je pense que le chapitre 3 que nous avons lu tout à l'heure est très instructif aussi à cet égard, parce qu'il montre aussi combien l'ennemi de nos âmes est habile.
Commence, on pourrait dire, d'une façon qui semble très banale, puisqu'il y a d'abord une discussion là, entre les disciples de Jean et puis un juif au verset 25, touchant la purification, et puis finalement, on vient à Jean pour lui dire, pour lui parler, quelque sorte, le prendre à témoin de ce qui vient de se dire. Et on dit ceci, « Rabbi, celui qui était avec toi, c'est-à-dire le Seigneur, au-delà du Jourdain, à qui tu as toi-même rendu témoignage, voilà, il baptise, et tous viennent à lui. » Alors voilà bien la flèche de l'ennemi, adressée, on pourrait dire, à Jean le baptiseur. Tous viennent à lui. C'eût été en quelque sorte, on pourrait dire, très normal pour un homme d'avoir quelque envie et puis quelque tristesse en se disant voilà, eh bien, j'ai accompli ce service pour Dieu et puis maintenant, eh bien, tout le monde s'en va et va suivre Jésus. Eh bien, Dieu soit béni, on voit ce qui était dans le cœur là, de Jean le Baptiseur, on l'a fait ressortir déjà. C'est très merveilleux de voir comment il a répondu. Il était vraiment dans la communion de son maître et il l'aimait de tout son cœur, si bien qu'il a été en quelque sorte facile de repousser cette flèche de l'ennemi. C'est dans la communion avec le Seigneur que se trouve la ressource pour, en quelque sorte, détourner, avec le bouclier de la foi, bien sûr, les flèches, les dards enflammés du méchant. Et ils ne manqueront pas. Les serviteurs en feront aussi l'expérience, bien sûr. Mais alors, c'est très très beau de voir, et on y reviendra certainement, comment il a répondu. Il a dit, un homme ne peut rien recevoir à moins qu'il ne soit donné, il lui soit donné du ciel. Et il rappelle son témoignage, il dit, mais vous avez oublié ce que je vous ai dit en quelque sorte, vous-même, vous me rendez témoignage que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, n'est-ce pas, je suis envoyé devant lui. Et cette merveilleuse assurance aussi, celui qui a l'épouse et l'époux, il réalise cette relation si bénie dans laquelle, nous le savons, nous avons été introduits, ces choses étaient encore en germe. Mais il peut dire, bien, voilà, l'ami de l'époux qui assiste et entend, et tout réjoui à cause de la voix de l'époux, cette joie donc qui est la mienne est accomplie. Et il ajoute, à la gloire de Dieu, il faut, c'est un des il faut de cet évangile de Jean, que lui croisse et que moi je diminue, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Eh bien, tout cela, c'est Dieu qui l'a produit dans le cœur de son serviteur, n'est-ce pas? Mais quand même, c'est là quelque chose qui glorifie le Seigneur. Quand vraiment le serviteur s'efface et que le Seigneur seul paraît. Et nous pouvons bien lui demander la grâce à tous qu'il nous accorde cela. Que nous sachions vraiment réaliser que toute la gloire est pour lui.
Il y a un témoignage de Jean qui peut paraître, c'est souvent le cas dans l'écriture, un peu contradictoire lorsqu'on lit superficiellement la parole. C'est ce témoignage que nous trouvons dans Matthieu, au chapitre 3 et au verset 15, prenons même au verset 13. Jésus vient de Galilée, au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean l'en empêchait fort, disant, « Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi ?» Et Jésus, répondant, lui dit, « Laisse faire maintenant, car ainsi, il nous est convenable d'accomplir toute justice. » Lorsqu'on lit ces paroles d'une âme neuve en quelque sorte, comme si on n'avait jamais lu la parole, on dit, mais enfin, cette réaction de Jean, mais comme elle est juste, comme je devrais la faire mienne, voyons, c'est le Seigneur Jésus qui n'a jamais péché, le seul homme parfait, et bien entendu, nous ne l'oublions pas, Fils de Dieu, qui vient se faire baptiser. Nous comprenons que l'hésitation, la stupeur de Jean, elle doit être la nôtre. Et que répond notre Seigneur? Laisse faire, car c'est ainsi que doit être accomplie la justice de Dieu. On est étonné du sens profond de ce qu'est la justice de Dieu et de la conception que notre Seigneur en a. Conception que nous connaissons bien, bien sûr. La justice de Dieu pour le Seigneur, c'est la dépendance totale, intégrale, une confusion totale de la volonté du Père et du Fils absolument indissociable. La justice de Dieu, dit le Seigneur, c'est que je me soumette à la volonté de Dieu. Et quelle est-elle la volonté de Dieu? c'est que je sois fait pécher, dit le Seigneur à Jean. Il fait comprendre que je sois fait pécher afin de sauver les pécheurs. Alors je viens me mêler aux pécheurs, comme si j'étais un pécheur, pour prendre sur moi le péché du monde, car ce n'est qu'en étant fait péché du monde que je peux être l'agneau de Dieu qui efface le péché du monde. Mais, et c'est en cela que ces deux témoignages se complètent, Jean tient à nous dire, et les évangiles synoptiques aussi, cette parole de Dieu: celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint, et moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage que celui-ci est le Fils de Dieu. Comme Dieu lui-même le dit dans les synoptiques, tu es mon Fils bien-aimé, celui en quel j'ai mis tout mon plaisir. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que Jésus est à la fois le Fils de Dieu, intégralement Fils de Dieu, Dieu lui-même, et qu'il s'est chargé des péchés du monde. Non seulement il n'y a pas une contradiction, mais il y a au contraire une façon de se rejoindre des deux témoignages, et c'est cette façon de se rejoindre qu'il nous faut bien comprendre. Quel a été le drame des Juifs? Quel est le drame de nombreux incrédules aujourd'hui? C'est qu'ils ne peuvent pas comprendre que Jésus, Fils de Dieu, on a vu, et c'est ce que dit excellemment, ce que prophétise excellemment Esaïe, il a été battu, il a été meurtri pour nous, et nous avons cru qu'il était frappé de Dieu, sous-entendu comme un coupable, mais il l'était en réalité pour nos transgressions. Voilà donc un excellent témoignage, apparemment contradictoire, de Jean. D'une part, reconnaître dans l'agneau de Dieu celui qui a été fait péché pour nous, c'est ce que nous sentons dans Matthieu, et d'autre part, voir dans l'agneau de Dieu le Fils de Dieu, fait homme, homme parfait, n'ayant pas connu le péché, et pour cela, et à cause de cela, capable d'ôter du péché du monde, car le péché du monde ne pouvait être ôté que par le Saint des saints.
Il est tout à fait important de souligner ce caractère de témoin de Jean, car au fond, il nous concerne aussi aujourd'hui. Et on peut dire que cela lui a coûté la vie, d'être un fidèle témoin de la vérité. L'homme à qui il a dit la vérité n'a pas pu la supporter longtemps, et il s'est débarrassé d'un témoin gênant, comme le monde s'est débarrassé du Seigneur lui-même en le clouant sur la croix, lui qui était, comme nous l'avons ailleurs, le témoin fidèle et véritable, lorsqu'il est assigné à dire la vérité, à dire ce qu'il est, eh bien il le dit. Alors que Jean ici rend un témoignage négatif, mais c'est un témoignage très puissant aussi, qui met en évidence la grandeur de cet homme de Dieu, sa grandeur morale, car il est prêt à dire ce qu'il n'est pas. Et nous voyons que l'Esprit de Dieu aussi, par la plume de l'apôtre Jean, déclare qu'il n'était pas la lumière. Quel était donc cet homme dont l'Esprit de Dieu doit dire qu'il n'est pas la lumière, tout en étant, comme nous l'avons vu, la lampe ardente et brillante? Une expression tout à fait remarquable pour un témoin de la lumière et de la vérité. Lampe ardente et brillante. Et nous pouvons dire que ce témoin-là, eh bien, il est caractérisé par ces deux éléments dont parle Pierre dans sa première épître au chapitre 3, verset 15. Et lorsqu'il est dit « Vous êtes bienheureux, ne craignez pas leurs craintes et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez le Seigneur le Christ dans vos cœurs. Et soyez toujours prêts à répondre, mais avec douceur et crainte à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » nous voyons tout d'abord l'état moral du serviteur, du témoin, de celui qui est appelé à parler de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Dieu prend soin tout d'abord de nous rendre attentifs à notre état moral, car pour être un vrai témoin de ce qu'est Jésus, eh bien, il est important que nous soyons séparés du mal et du monde, comme l'était d'ailleurs Jean-Baptiste d'une façon tout à fait remarquable. Et alors, nous pouvons toujours être prêts, il était prêt. Ce septuple témoignage qui est donné de lui concernant la personne du Seigneur Jésus est une plénitude. Son cœur est entièrement saisi par ce qu'est Jésus, par ses gloires variées. Et alors il peut parler de cette personne, comme le faisaient d'ailleurs tous les premiers chrétiens. On peut le dire par exemple dans les Actes au chapitre 11, ils sont occupés du Seigneur. Il nous est dit tout d'abord que lorsqu'il y a eu la persécution à propos d'Étienne, verset 20 à la fin, les Juifs parlaient aux Grecs annonçant le Seigneur Jésus. C'est bien ce qui a été souligné précédemment, que le témoignage que nous sommes appelés à rendre, c'est présenter une personne, annoncer le Seigneur Jésus. Et quelquefois, il n'est pas nécessaire de parler. Il suffit de vivre. Vivre Christ. Pour moi, vivre, c'est Christ. C'est le résumé le plus beau concernant la vie chrétienne d'un fidèle témoin qui lui aussi a donné sa vie pour son maître. Eh bien, ils annonçaient le Seigneur Jésus. C'est tout simple. D'ailleurs, dès que Paul est converti, eh bien, le message qu'il présente, c'est Jésus, une personne. Personne vivante qu'il connaissait, qui lui avait parlé, et il l'avait vu. Il pouvait être un témoin complet à ce titre. Il avait vu le Seigneur dans la gloire, et il avait entendu ses paroles. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Et tout son ministère a été marqué par et cette parole du Seigneur et la vision glorieuse de l'homme qui est à la droite de Dieu. Il est ajouté ensuite que la main du Seigneur était avec eux. Nous avons constamment besoin de cette main du Seigneur pour que nous puissions persévérer dans ce témoignage qui est à rendre. Nous sommes si vulnérables, si enclins à nous égarer à droite, à gauche, du chemin tracé par le témoin fidèle et véritable, si bien que nous avons besoin constamment de cette main du Seigneur. Et puis il est ajouté qu'un grand nombre ayant cru se tournèrent vers le Seigneur. Ils ne se tournent pas vers les apôtres, vers ceux qui étaient des témoins fidèles. Non, nous avons là le secret de tout vrai ministère béni de la part de Dieu. C'est que les âmes se tournent vers le Seigneur. Le témoin disparaît. Il a rempli sa mission. Eh bien l'âme maintenant va pouvoir entretenir une relation vivante avec son Seigneur et ainsi à son tour être aussi un témoin. Un peu plus loin, il est dit, et c'est l'exhortation de ce bienheureux Barnabas, fils de consolation, car un témoin doit être aussi un fils de consolation, qui apporte la grâce et la vérité aux âmes. C'est ainsi qu'elles peuvent être vraiment consolées quand il y a un témoignage complet qui est rendu. Alors, il les exhorte. Il y a une place pour l'exhortation. Tant que nous sommes dans le corps, avec la présence de la chair en nous et le monde autour de nous, il est nécessaire que nous soyons exhortés tous, sans exception, à demeurer attachés au Seigneur de tout cœur. Tout va bien pour une âme quand elle est attachée au Seigneur de tout son cœur. Il n'y a pas de défaillance, il n'y a pas de découragement à ce moment-là. Et elle peut marcher sur les eaux par la foi, les eaux agitées de ce monde, être au-dessus, élevée par la grâce de Dieu, au-dessus des circonstances. Ce qui est important, c'est cet attachement du cœur au Seigneur, et c'était bien la portée des différents témoignages de Jean. Puisque les deux disciples qui l'entendent parler, eh bien, tout normalement, sont attirés par le Seigneur, par sa demeure, par sa présence. Et le serviteur n'en éprouve aucune jalousie. Il est l'humilité
qui lui est accordé lui permet d'accepter ce cheminement pour ses âmes auquel il avait présenté Jésus comme l'agneau de Dieu. Et alors il est ajouté, toujours dans ce même chapitre 11 des Actes, et une grande foule fut ajoutée au Seigneur. Quelle place tient le Seigneur dans la vie de ses premiers croyants, qui avaient été chassés par la persécution, mais qui sont attachés de tout leur cœur au Seigneur, comme l'était Jean le baptiseur lui-même. On peut dire aussi dans le deuxième témoignage de Jean qu'au fond, il présente le Seigneur comme étant incarné. La parole devint chair et habita au milieu de nous, parce qu'il est ajouté ensuite au verset 15, Jean rend témoignage de lui et a crié. Voyons donc là qu'il présente celui qui s'est incarné. Et combien cela est important, c'est essentiel, cela fait partie du mystère de la piété que nous avons toujours à proclamer. Ce mystère, combien important que l'apôtre nous révèle et qui est une merveilleuse chaîne où Christ vient sur la terre pour accomplir cette œuvre de la rédemption que nous avons à proclamer encore aujourd'hui dans toute son efficacité. Dieu sauve encore le pécheur qui se repent et qui reçoit le témoignage des Écritures. Un autre point important dans le témoignage qui est donné à propos du Seigneur, toujours par Jean le baptiseur, et c'est le deuxième aspect de cette œuvre. Tout d'abord, il y a bien sûr l'œuvre essentielle qu'est la rédemption, à savoir que le Seigneur est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est essentiel, mais le deuxième point, et qui est tout à fait caractéristique de la période chrétienne, c'est qu'il baptise de l'Esprit-Saint. L'Esprit Saint est descendu sur la terre à la suite de la glorification de Christ et est venu établir en quelque sorte un lien vital, un lien indestructible entre la tête qui est dans le ciel et le corps qui est sur la terre. Il baptise du Saint-Esprit. Et la chose est faite une fois pour toutes, contrairement à ce qui se dit dans certains milieux chrétiens. Le baptême du Saint-Esprit a eu lieu au chapitre 2 des Actes. La chose est faite. Et c'est pourquoi, quand une âme se convertit, reçoit la vie qui est en Christ, le Saint-Esprit vient sceller que l'âme appartient à Dieu et elle est ajoutée au corps de Christ qui est baptisé d'un seul esprit.
Avec cette pensée, nous lisons aussi dans le premier chapitre du livre des Actes ce que le Seigneur Jésus a dit aux siens avant d'être élevé au ciel. Verset 8, acte 1. « Mais vous recevrez de la puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. » Il y avait donc ce septuple témoignage confié à Jean le baptiseur. Mais les apôtres avaient à rendre un témoignage supplémentaire. C'était celui sans doute de la mort, mais celui de la résurrection du Seigneur. Et nous voyons que lorsqu'il s'agit dans ce même chapitre de choisir quelqu'un qui va remplacer Judas, ce qu'il est dit au verset 21, il faut donc, c'était donc pour les apôtres une nécessité que ce témoin appelé à remplacer Judas réponde à cette nécessité. Il faut donc que d'entre les hommes qui se sont rassemblés avec nous pendant tout le temps que le Seigneur Jésus entrait et sortait au milieu de nous. En commençant quand ? En commençant depuis le baptême de Jean, jusque quand ? Jusqu'au jour auquel il a été élevé au ciel d'avec nous, quelqu'un d'entre eux soit témoin avec nous de sa résurrection. Eh bien, chers frères et sœurs, c'est à ce témoignage que les apôtres ont été appelés. Notre frère vient de le souligner. Et le livre des Actes est là pour nous montrer dans quelles conditions d'opposition le Seigneur leur a donné la hardiesse qu'ils ne possédaient pas par eux-mêmes, mais qu'au sein de l'épreuve, ils demandaient au Seigneur. Et nous sentons combien peu nous avons cette hardiesse. Dans ce même livre des Actes, au sein des persécutions, nous voyons que les apôtres se rassemblent pour la prière, quand il est dit « ils vinrent vers les leurs », c'est au chapitre 4. Donc, ces témoins, nous les trouvons déjà au chapitre 2, au verset 32. « Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, ce dont nous sommes tous témoins. » Au chapitre 3 et au verset 15, mais vous, il s'agit de Pierre, dont il vient de nous être parlé, mais vous, vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier, et vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes tous témoins. Et que fait le peuple juif? Ceux qui ont mis à mort le Seigneur Jésus, tous les témoins ont toujours eu leurs oppresseurs. Jérémie a eu les siens. L'apôtre Paul a eu les siens. Le Seigneur Jésus est venu chez soi et les siens ne l'ont pas reçu. Étienne a eu aussi ses oppresseurs. Après avoir mis à mort le Seigneur, ils ont mis le comble à leur réjection du Fils de Dieu en mettant à mort Étienne, qui était aussi un fidèle témoin. Et soyons persuadés, chers amis, que si nous souffrons peu pour le nom de celui qui pour nous est mort et ressuscité, c'est parce que je suis souvent un si faible témoin. Et pourtant, c'est à cela que nous avons été appelés. Eh bien, quelle est la ressource pour être un témoin? Est-ce que Jean le Baptiseur les possédait par lui-même, ces ressources? Non. Il était un homme envoyé de Dieu. Voilà ce qui compte. C'est pas dire, ah mais vous savez, moi je veux rendre mon témoignage. Non, c'est pas mon témoignage que je veux rendre. C'est ce qu'on entend très souvent dans les systèmes qui nous entourent. C'est rendre témoignage à la mort et à la résurrection du Seigneur. Où? Quand? Comment? Prenons la leçon de l'apôtre Paul. Qui es-tu, Seigneur? Et ensuite, je vais faire ceci, je vais faire cela. Que veux-tu que je fasse? Eh bien, au sein de ce témoignage, ils ont rencontré de l'opposition. Et alors, il y a cette remarquable réunion de prière dans le chapitre 4. Ils disent au Seigneur ce qu'il en est. Les rois de la terre, verset 26, se sont trouvés là et les chefs se sont réunis ensemble contre le Seigneur et contre son Christ. Car en effet, dans cette ville, contre ton saint serviteur Jésus. On est pour Jésus ou on est contre Jésus. Ne l'oublions jamais. Alors, quelle est leur ressource? C'est la nôtre encore aujourd'hui. Le monde est contre nous. Pourquoi? Parce qu'il est contre notre Seigneur. Quelle est notre ressource pour être des témoins? C'est le verset 29. Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces. On leur avait interdit de parler en ce nom. On les mettra en prison à cause de ce nom. Eh bien, quelle est la ressource? Et maintenant, Seigneur, regarde à leurs menaces. Ah, désormais, Pierre a laissé l'épée dans le fourreau. Quand on vient pour chercher son maître, il sort son épée et il coupe l'oreille de Malchus. Mais maintenant, Pierre a compris la leçon. Il a laissé l'épée dans le fourreau. Nous aussi, bien-aimés, notre lutte n'est pas avec l'épée. Laissons l'épée dans le fourreau. C'est le Seigneur qui le dit. Et alors, notre ressource, c'est la prière. Regarde à leurs menaces et donne à tes esclaves d'annoncer ta parole avec hardiesse. Et ce petit mot hardiesse, nous pouvons le rechercher à travers ce livre des Actes depuis le début jusqu'à la fin. Eh bien, nous aussi, bien-aimés, nous avons besoin de demander à notre Seigneur la hardiesse pour que dans ces derniers mauvais jours, nous soyons les témoins de sa mort et de sa résurrection. encore un petit mot pour nos enfants. Il y a dans l'Ancien Testament une jeune fille qui a été un remarquable témoin. Dans quelles conditions ? Elle est emmenée captive par les Syriens. Est-ce qu'on l'entend murmurer ? Est-ce qu'on l'entend pleurnicher et dire « J'aurais tant aimé rester en Israël ?» Car elle connaissait le prophète. Elle connaissait Élisée. Chers enfants, vous connaissez celui qui est plus grand qu'Élisée. Vous connaissez Jésus. Vous avez le privilège, non pas d'être amené captive, mais d'être là dans la maison de vos parents. Plus, d'être là, écoutant la parole du Seigneur, où il rassemble les siens autour de lui. Eh bien, cette jeune fille, qu'est-ce qu'il nous est dit d'elle ? Elle servait devant sa maîtresse. Comme Élisée servait devant son Dieu, l'Éternel devant qui je me tiens est vivant, eh bien, 2 Rois 5, elle servait la femme de Naaman. Quel exemple de soumission et d'humilité. Et quand on est un vrai témoin, on est en peine de la douleur des âmes. On est en peine que des âmes autour de nous sont atteintes par le péché et par la mort. Cette jeune fille, elle est triste parce que le mari de sa maîtresse, il est lépreux. Et quel est son témoignage ? Eh bien, nous allons le lire et nous arrêterons là. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, alors il le délivrerait de sa lèpre. »
En Jean 10, verset 39, les Juifs cherchaient donc encore à le prendre, à prendre Jésus. Mais il échappa de leurs mains et s'en alla encore au-delà du Jourdain, à l'endroit où Jean avait baptisé au commencement, et il demeura là. Et plusieurs vinrent à lui. Et il disait, Jean n'a fait aucun miracle. Mais toutes les choses que Jean a dites de celui-ci étaient vraies. Et plusieurs creusent en lui. La qualité du témoin est d'être fidèle, fidèle à ce qu'il a reçu, fidèle à ce qu'il a entendu. Fidèle à ce que Dieu lui a communiqué et qu'il doit à son tour faire connaître aux autres. Il est frappant de voir le témoignage des ennemis du Seigneur, car c'était ces Juifs qui étaient prêts à lapider le Seigneur, qui disent cela, et qui, voyant Christ, étaient obligés de reconnaître que ce qu'ils avaient entendu de la part de Jean-Baptiste était l'exact vérité. Le témoignage de quelqu'un ne consiste pas seulement dans ses paroles, il y a aussi ses actes qui sont pour ceux qui le voient une façon d'entendre, de recevoir et de mettre en pratique. J'aimerais rappeler bien que la pensée était déjà évoquée par l'un de nous, deux autres passages que nous avons lus. Le premier passage que nous pouvions lire se trouve dans le chapitre 1er de Jean, et il est ceci au verset 27. Celui qui vient après moi, duquel moi je ne suis pas digne de délier la courroie de la sandale. Et voici le second verset, comme je l'ai dit, auquel il a déjà fait allusion, que nous trouvons dans le chapitre 3e de Jean, et au verset 30. Il faut que lui croisse et que moi je diminue. Quelle expression de l'humilité de Jean-Baptiste. lui, le plus grand des prophètes. Quelle joie pour lui de se mettre aux pieds du Seigneur et de s'estimer indigne de délier la courroie de ses sandales. Et lorsqu'on parle à Jean-Baptiste de ce qu'il a pu faire, lorsqu'on lui demande qui il est, il peut répondre en prenant cette place aussi toujours dans la plus complète et dans la plus réelle humilité. Il faut que lui, celui que j'ai été appelé à proclamer et à annoncer l'accomplissement du royaume, bien que celui, hélas, n'ait pu être réalisé. Mais devant celui-ci, moi, je prends la place. Je diminue. Je ne veux être rien à côté de celui que j'avais été chargé d'annoncer. Je diminue afin que lui croisse. Ceci s'adresse d'une façon particulière à tous ceux qui ont à cœur de servir le Seigneur. Et si le service est une preuve inévitable de la vie de Christ dans le croyant, ce service quelquefois peut être un danger pour le serviteur. On se laisse souvent prendre à ce service et on aime tout ce qui s'attache, malheureusement, émanant de cœurs plus charnels que spirituels, on s'attache quelquefois à une considération, à quelques paroles qui sont, nous avons à le reconnaître, toujours mal placées. Car aussi bien le serviteur que ceux qui sont servis ne doivent avoir devant eux qu'une pensée, la gloire du Seigneur. Et le serviteur n'a pas à être préoccupé de la place qu'il a ou qu'il n'a pas. Il n'a pas à être préoccupé de ce que son frère est ou n'est pas. Il n'a pas à se préoccuper de la place que les autres lui donnent. Il doit être, comme nous le lisons aussi dans l'évangile de Luc, ce serviteur inutile parce que le Seigneur sait se servir de lui, mais il sait aussi recourir à d'autres. Et si le Seigneur lui fait l'honneur d'être entre ses mains un instrument, l'instrument doit toujours rester dans cette attitude dont Jean-Baptiste nous parle. Lui, diminuant et faisant tout pour croître. Oui, Jean-Baptiste a été à l'école de son maître. Ce maître avait dit, et nous trouvons par deux fois ces paroles dans les évangiles, le Fils de l'homme n'est pas venu sur la terre pour être servi, mais pour servir. Et ce qui est dit un peu plus loin nous montre la limite du service que le maître avait en vue pour servir et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. C'est ce qu'a fait Jean-Baptiste. Nous aurons l'occasion peut-être de rappeler cette fin qui a été semblable à la fin de son maître. Il a dû connaître dans la prison la fin de sa vie et ensuite payer de sa vie. Oui, il l'a été, le disciple fidèle de son maître. Puissions-nous, nous aussi, dans la mesure où nous sommes appelés les uns et les autres, et le service est donné à chacun, à chaque racheté, frère ou sœur. Mais quel que soit le service, puissions-nous être étreints de cette humilité, rassasiés des biens de ton amour, désaltérés au fleuve de ta grâce. Fais-nous marcher en paix devant ta face, en te servant humblement chaque jour.